14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur, avec Faustine Bollard, on commence, comme tous les jours, par son biais d'humeur.
Il y a quelque chose de très pervers dans ces maladies comme l'alcoolisme ou l'anorexie, ces souffrances qui naissent d'abord dans la tête avant que le corps ne les exprime. Je me suis fait la réflexion il y a quelques jours devant un reportage que je regardais avec des amis. Une jeune femme, plantée devant une assiette pleine, peinée à ingurgiter ne serait-ce qu'une miette de son plat. Plan fixe de la caméra sur ses mains paralysées et son regard paniqué, mon voisin réagit. Tu vas pas me dire qu'elle est pas capable de prendre au moins une bouchée, c'est quand même vraiment une question de motivation ces trucs-là. Même si je ne puis que bondir en entendant ce commentaire, il fit quand même écho à tous ceux que je peux recevoir régulièrement quand je vous propose une émission sur ce thème. Pendant la dernière, sur l'alcoolisme, je me souviens avoir passé à l'antenne une femme qui s'agaçait devant le peu de volonté de ces personnes qui s'en sortiraient plus facilement, si je cite, ils décidaient de se bouger un peu. Son mari lui-même avait gagné ce combat contre la bouteille. Je crois que si nous avons toujours en nous tous une petite voix qui nous empêche de totalement accepter que l'alcoolisme soit une vraie maladie dont on est victime, c'est que contrairement à un bras cassé, un rhume ou un cancer, le mal ne nous tombe pas dessus. Quelque part, à un moment, on met volontairement le doigt dans cet engrenage. Et c'est cette petite nuance qui peut empêcher la famille, les proches, ou cette auditrice par exemple, de compatir totalement. On est dans l'empathie évidemment, mais il est difficile d'accepter que l'autre n'y puisse rien. Et forcément, devant une famille détruite, on lui en veut à ce frère, cet oncle, ce père pourtant malade. C'est humain, cruel, mais humain. Maintenant, il faudrait pousser le processus jusqu'au bout. Si on a peut-être humainement le droit d'en vouloir à celui qui souffre d'être responsable de sa chute, il est tout autant légitime et nécessaire de reconnaître qu'il est lui seul responsable de sa guérison. Une bataille gagnée qui a tout autant le droit d'être saluée, et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur » sur Europe 1.
Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ? Faustine Bollard.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour Julia.
Bonjour Faustine.
Et merci d'être avec nous pour cette émission qu'on vous avait promise. Comment se relever de son combat contre l'alcoolisme ? Quid de la vie d'après ? Les enfants, le travail, la menace de la rechute, on va en parler aujourd'hui sans tabou. Comme d'habitude, c'est de votre côté qu'on se place avec le témoignage de deux anciens alcooliques en studio aujourd'hui. Au sommaire, à leur côté, nous serons en ligne avec le médecin addictologue, docteur Eric Ispar. Nous verrons avec lui quels sont les médicaments qui peuvent soutenir chimiquement ceux qui en ont besoin. Vous retrouverez également le livre du jour présenté par un libraire. Et puis la recette du bonheur, aujourd'hui c'est Roland Giraud qui a répondu à nos questions.
Europe 1, 14h30, 15h30.
Et si c'était ça le bonheur ? Faustine Bollard.
Il est 14h32 et on est en direct sur Europe 1, 3921 pour nous joindre. Vous avez été malade vous-même et vous, vous en êtes sorti. Venez nous expliquer de quelle manière vous avez renoué avec vos proches. Avez-vous éprouvé le besoin de leur demander pardon ? Comment vivez-vous les sollicitations et tentations permanentes en société ou dans le cadre de votre job ? Quel est le secret, s'il y en a un, pour que la guérison, si on peut utiliser ce terme, on va se poser la question, hein, soit pérenne. On vous attend donc au 3921, mais également sur internet, sur les mails, Julia.
Exactement, pour tous vos courriels, c'est faustine.europe1.fr. On attend également vos témoignages et réactions sur la page Facebook de l'émission.
C'est parti, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Et si c'était ça le bonheur ?
Faustine Bollard.
Muriel et Laurent, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez tous les deux souffert d'alcoolisme, mais vous, vous en êtes sortis. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté de témoigner dans notre émission. Alors, la dernière émission qu'on a faite avec deux de vos collègues, on s'était vraiment focalisé sur cette période d'avant la prise en charge, celle pendant laquelle on s'avoue que l'on est malade. Je voudrais avec vous maintenant qu'on revienne sur les réunions aux Alcooliques Anonymes et également la période d'après quand on sort vraiment la tête de l'eau. On va revenir d'abord sur vos deux parcours respectifs. D'abord vous, Laurent, vous avez 41 ans. Depuis combien de temps êtes-vous abstinent ?
Trois ans et demi.
D'accord. Vous buviez avant, depuis l'âge de 15 ans. Vous avez également touché à d'autres drogues. Quel a été le déclic pour que vous preniez la décision de vous faire soigner ?
Une destination qui était pour moi le suicide, et j'en avais pas le courage. Donc à un moment donné, voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que où je meurs de cette maladie maintenant, où j'essaye quelque chose, j'essaye de rebondir, je tente quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Alcooliques Anonymes.
C'est quoi ce quelque chose ?
Je pense quelque chose de vie qui est plus fort, qui est on va essayer. J'avais jamais rien essayé avant, j'ai toujours consommé moi sans jamais m'arrêter. Mmh. Et à un moment donné, est venu à moi le « essaye ». Ce qu'on me dit dans le programme Alcoolique Anonyme, c'est-à-dire d'essayer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé la permanence téléphonique et puis je suis allé en réunion de première fois. Et là, j'ai découvert un monde merveilleux.
Un monde merveilleux. C'est votre. On va y revenir hein, sur ce monde merveilleux, puisque vous parlez en effet de monde magique, de monde merveilleux. Évidemment, on a envie de savoir pourquoi. Mais juste, votre famille, à un moment, le choc émotionnel qui vous a peut-être poussé à vous faire soigner, ça a été que votre famille vous a tourné le dos.
Ouais, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je suis allé loin dans mon alcoolisation, dans ma consommation de produits, et donc ma famille m'a donné une fin de non-recevoir en disant si tu te prends pas en main, nous on veut plus te voir. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a permis moi de, entre guillemets, c'est notre langage, hein, de toucher le fond et de pouvoir envisager après une démarche vraiment personnelle, de dire maintenant Laurent t'es tout seul, qu'est-ce que tu fais pour toi quoi.
C'est votre famille, ce sont vos parents ?
Oui, parents, sœurs.
Entourage. On va revenir sur ce que vous nous dites sur ces réunions. D'abord vous Muriel, merci également beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 57 ans, cela fait 22 ans que vous êtes abstinente. Je crois que pour vous ça a été une rencontre qui a été le déclic avec un médecin.
Avec un médecin, oui, tout à fait. Alors en fait, nos parcours souvent se ressemblent. J'avais pris déjà au préalable moi la décision de me suicider parce qu'un jour j'ai découvert mon fils avec un coquard, mon petit gamin qui avait 3 ans. Il avait un coquard à l'œil et le lendemain j'ai accusé la nourrice, c'était pas la nourrice. J'ai accusé l'école, c'était pas l'école. Il a fallu que je me rende compte que c'était moi, quoi. Et ça, je me suis dit jamais je peux pas faire vivre ça à mes fils. Donc j'en avais un autre de 6 ans. Donc la décision était vraiment prise dans ma tête. C'était très très bien calculé pour me suicider. Puis au dernier moment, une amie m'a parlé d'un ostéopathe en fait que j'ai été voir. Et c'est la première personne à qui j'ai vraiment dit je suis alcoolique et je me suis effondrée en larmes dans son bureau. Et c'est aussi la première personne qui, au lieu de me donner des anxiolytiques, des médicaments et des machins, m'a regardée et m'a dit moi je peux rien pour vous. En revanche, il y a un mouvement qui a l'air de marcher parce qu'il y a une dame qui sort de là, qui en fait partie. Vous devriez essayer. C'est un mouvement d'anciens buveurs, les Alcooliques Anonymes. Voilà, c'est passé comme ça. Il m'a donné une petite lumière et puis j'y suis allée, quoi, en fait.
Vous avez immédiatement accepté où il faut faire une démarche pour se rendre aux Alcooliques Anonymes. On a une image assez clichée de ces réunions. Non. On sait tous, on imagine tous comment ça se passe. En même temps, on ne le sait pas concrètement. Non. C'est compliqué de prendre la décision d'y aller. Il y a une forme de honte aussi qu'il faut dépasser.
Voilà, c'est ça. C'est plutôt la forme. Il y a deux choses, je dirais, en ce qui me concerne. C'est une forme de honte, oui, parce que là, ça y est, officiellement, et je vais afficher que je suis une femme alcoolique. Et être une femme alcoolique, je crois que c'est quand même très humiliant.
Plus qu'un homme, on en avait déjà parlé
plus
l'autre
homme,
fois, c'est plus compliqué à assumer.
Ouais. Et puis la deuxième chose, comment ça se passe, est-ce que je rejoins une secte, j'avais peur un petit peu de ce que j'avais trouvé quand même, et j'imaginais des déchets humains moi, autour d'une table, quoi. C'était pas réjouissant, quoi. C'est pas comme s'inscrire à un club de sport, si vous voyez ce que je veux dire.
Vous aussi, Laurent, vous avez cette image d'arriver dans une réunion où il y aurait plein j'utilise vos termes, de poivreaux avinés.
D'un certain âge, moi je voyais comme ça des gens en fin de vie, entre 60-65 ans, qui étaient tous issus de la rue, etc. En tout cas, pour moi, ce qu'il y avait de... J'avais super peur, et puis un matin, je me suis réveillé, j'ai vu ma tête, et j'ai dit, mais ok, c'est bon, je pense que je suis assez rouge, je suis assez gros, et ça y est, je suis prêt, quoi. Il faut que j'y aille. Mm-hmm. Et puis, par contre, j'ai découvert autre chose.
Alors justement, cette autre chose, quand vous êtes arrivé dans votre première réunion, mm-hmm. qu'est-ce qui vous a frappé? C'était quoi le profil des gens qui se sont présentés autour de vous?
Alors déjà, moi, j'ai assisté à 3 anniversaires, puisqu'en Alcoolique Anonyme, on fête les anniversaires d'abstinence. Mm-hmm. Donc il y avait 3 personnes qui fêtaient leur anniversaire. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de chance. À l'anniversaire, on dit beaucoup de choses. Hein. Et puis le profil, c'était des gens, je dirais, de 25 ans à effectivement 65 ans.
Donc il y avait des très jeunes, contrairement très à ce que jeunes. Vous aviez imaginé. Oui.
Voilà, contrairement à ce que j'imaginais. Puis des gens bien, des femmes belles, des femmes bien fringuées, d'autres moins bien. Enfin, il y avait de tout, c'était très cosmopolite. Mais en tous les cas, pas le poivreau que je pensais, pas le déchet humain que j'avais imaginé.
Et ça vous a rassuré quand vous êtes arrivé ?
Ouais, c'est ça. Ça m'a rassuré tout de suite. Déjà, de les voir comme ça, ça m'a rassurée. Et la deuxième chose, je me suis dit, en fait, il y a une vie sans alcool. Je crois que c'est un des trucs les plus forts, parce que quand on vit Je sais pas si vous pouvez imaginer. Quand on vit au quotidien, et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui sûrement ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils font tout parce qu'en buvant. Et puis, je vais donner à manger à mes enfants, mais avant, je prends un peu de courage, je vais boire. Je vais coucher mes enfants, mais avant, j'ai un peu de courage, je vais boire. Je vais chercher mes enfants à l'école, ou je vais travailler, ou je fais du ménage. Moi, c'était tout le temps, je vais boire d'abord, parce que ça va m'aider. Voilà.
Je comprends pas en quoi la rencontre avec ces personnes vous a fait réaliser qu'il y avait une vie sans alcool. Je comprends pas.
Mais parce qu'ils m'ont raconté leur vie.
D'accord.
Au cours de cette réunion, qu'est-ce qu'on fait? Notamment à l'anniversaire, c'est pour ça que c'est chouette les anniversaires, on parle de l'alcool avant, comment on était dans l'alcool et comment on vit depuis qu'on boit plus. Et c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu ma vie, quand ils parlaient de l'alcool, de eux dans l'alcool, c'était moi dont ils parlaient. Et après, ils ont parlé de eux sans alcool et j'ai pu imaginer que ma vie pourrait être ça.
Vous parlez de monde, Laurent, de monde merveilleux. Oh, c'est vrai que vous avez eu ce sentiment du côté un peu magique quand vous êtes arrivé. Pourquoi? Une espèce de reconnaissance.
C'est un peu fort, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est justement qu'il n'y avait pas de profil. Et que moi, je m'attendais à avoir un stéréotype et que justement, il n'y en avait pas. Et c'était tellement varié, divers, avec des âges différents, des professions différentes. Et ce qui, moi, m'a vraiment plu, c'est que ces gens avaient une connaissance d'eux-mêmes. Et moi, je voulais ressembler à ces gens parce qu'ils buvaient plus. Et puis parce qu'ils se connaissaient bien, ils parlaient tellement bien d'eux. Et je voulais ça.
Et ça fait 3 ans et demi que ça dure. Dans un instant, on va parler concrètement de la manière dont ça se passe avec les parrains et les marraines qui font partie des éléments clés pour s'en sortir. On reviendra également sur ces rituels nécessaires qui sont très clichés, hein, mais qui pourtant sont nécessaires pour pouvoir s'en sortir au contact de ces réunions. On va y revenir avec vous et puis on évoquera la relation avec les proches. Est-il nécessaire de demander pardon? C'est ce que on verra juste après ça.
Jusqu'à 15h30.
Et si c'était ça le bonheur?
Sur Europe 1.
Quelle vie après avoir remporté la bataille contre l'alcoolisme? On se projette aujourd'hui pour aider ceux d'entre vous qui vivent ces étapes ou accompagnent quelqu'un qui veut s'en sortir, comme Laurent et Muriel, deux anciens malades qui témoignent aujourd'hui dans cette émission. On se disait en écoutant cette musique, well, c'est assez ironique d'ailleurs, qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, je dirais même joyeux, qui s'émane de vous. Moi qui suis en studio, vous avez une aura très positive, il y a même une grande solidarité entre vous. C'est ce que vous ressentez aux réunions des Alcooliques Anonymes? On se serre les coudes, il y a quelque chose qui relève du fraternel?
Ben oui, je pense que c'est, on appelle ça des fraternités. Donc voilà, moi j'ai découvert des gens comme moi et donc effectivement là, j'ai reçu beaucoup de soutien. Et puis maintenant à mon tour aussi, j'ai mon rôle à jouer pour apporter du soutien à qui je peux.
Oui, cette solidarité, c'est moi ce que j'appelle cet amour là. On a tous la même épée de Damoclès sur la tête. On sait tous qu'on peut crever de l'alcool, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Et on sait tous qu'on peut céder. Et en cédant, on peut s'en sortir. Donc ça, c'est fabuleux, quoi.
Au bout de 22 ans d'abstinence, on continue à fêter les anniversaires?
Ah, absolument.
C'est-à-dire, c'est tous les ans. Donc tous les ans, vous venez.
Tous les ans.
Et on vous remet quelque chose?
Non. Non. Non, à part des petits cadeaux, si on nous remet des fleurs, on nous remet ce qu'on a envie en fait. Hein, certains amis nous font des petits cadeaux, mais c'est hyper important. Hein. Pour moi, par exemple, c'est hyper important tous mes anniversaires parce que j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas ce que j'ai été, j'oublie pas que j'ai été battue par l'alcool. Et puis je peux expliquer aussi ou transmettre des choses comme j'ai pu transmettre à Laurent. À un moment donné, comment je m'en suis sortie, effectivement, comment petit à petit je me suis reconstruit. C'est pour ça que j'aime pas trop dire qu'on est guéri. En revanche, on se reconstruit. Ça correspond plus, je pense, à ce qu'on fait.
Alors, on va revenir sur ces rituels nécessaires et également sur les parrains et les marraines. D'abord, il y a un mail qui nous arrive. Sophie qui nous dit « Mon père était alcoolique pendant plus de 20 ans. Avec mon frère et ma mère, nous avions tout essayé pour le motiver, être gentil, méchant, l'encourager, l'ignorer. Il a dû attendre l'effondrement pour se rendre compte qu'il n'y avait qu'une solution, se faire soigner. Il est parti en cure 2 semaines avant mes 20 ans. Quel beau cadeau. Maintenant qu'il est sobre, cela reste encore très compliqué de se dire qu'il a changé et que je ne retrouverai pas l'homme qu'il était. Toutefois, l'abstinence n'efface pas toutes les souffrances dues à son alcoolisme. Il y a une réaction par rapport à mon biais d'humeur quand j'expliquais à quel point c'était parfois compliqué et humainement compliqué d'accepter que l'autre soit malade, puisque quelque part c'est lui qui est tombé volontairement dans cette spirale. Anne réagit par rapport à ça. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est votre ex-mari qui était alcoolique, Anne?
Oui, alors je crois que j'étais un petit peu la seule à le considérer comme tel. Et c'est pour ça que ça me révolte quand j'entends des alcooliques sont des malades. Parce qu'il y a eu... il a été arrêté plusieurs fois pour alcool au volant. Il a eu suspension de permis, annulation de permis... des heures de travaux d'intérêt général à faire, mais aucun suivi concret et réel pour le soigner. Alors on parle de soins effectivement quand on est malade, mais là en l'occurrence on l'a laissé tomber, on m'a complètement laissé tomber, que ce soit dans sa famille ou dans la mienne, personne ne réagissait réellement à ce qui pouvait se passer. Donc aujourd'hui, j'ai encore du mal à accepter qu'on puisse dire ça, parce qu'il a vraiment détruit une grande partie de ma vie. Je me suis enfuie de chez moi avec mon bébé. Il aurait pu me tuer s'il le voulait. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui faisaient que c'était un environnement insupportable. Et j'ai jamais eu personne pour m'aider, pour me soutenir dans cette difficulté que j'ai rencontrée. Ni la justice, ni la commune, parce qu'il a été suivi par un conseiller à la mairie qui le considérait normal. Que pour lui, il n'y avait pas de problème, il allait s'en sortir.
C'est votre colère. On sent que vous êtes toujours animée par une grande colère, mais presque moins contre votre ex-mari, même si on entend dans votre voix toute la souffrance qui en a découlé, mais aussi contre le manque d'aide dont vous avez bénéficié, et donc pas bénéficié en l'occurrence. Vous vous êtes sentie vraiment abandonnée, Anne. Est-ce que lui, il avait fait la démarche d'aller lui-même, notamment aux Alcooliques Anonymes ou ailleurs, dans une autre association ?
Ben non, parce que justement, comme il a été convoqué au tribunal, on lui a dit que non, lui, ce n'était pas un alcoolique, alors qu'il buvait en cachette. C'était ponctuel, en fait. C'était à la fin, ça devenait, je pense, journalier. J'étais même venue au point de surveiller le niveau des bouteilles d'alcool. Mais personne ne le considérait comme alcoolique. Donc c'était difficile de lui dire, mais tu es un alcoolique, faut que tu te fasses soigner.
Et lui-même, peut-être votre réaction, oui. Muriel, mais de manière, le premier pas, c'est que lui-même l'accepte. Bah,
c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que un alcoolique ne veut pas s'en sortir tant qu'il n'a pas absolument, définitivement compris qu'il était un alcoolique.
Mais ça dépend de quoi ? Ça dépend. Il faut que les proches le disent. C'est
non,
important de.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Sincèrement, moi, par exemple, dans mon cas, moi, j'avais un alcool caché, même si je buvais dès le matin. C'est-à-dire, je pouvais fonctionner qu'en ayant bu 2-3 bières. Hein, faut le savoir quand même. Donc, j'étais vraiment complètement alcoolique, c'est clair. Mais personne autour de moi ne m'a dit que j'étais alcoolique. Personne,
ça n'aurait rien changé.
Mon mari. Il me disait, tu bois trop, tu devrais boire moins, je supporte plus, il m'a battu. Enfin, on a eu des trucs épouvantables à cause de l'alcool, mais personne n'a osé me dire que j'étais alcoolique.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose?
Non, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. C'est à moi de me rendre compte que je suis alcoolique. Tant que je dis, j'ai un problème d'alcool, peut-être que je pourrais boire moins, etc., ou que les gens me conseillent de boire moins. Et c'est ça le problème dans la société aujourd'hui, c'est que quand vous avez un problème d'alcool, les gens vont vous donner plein de conseils pour boire moins, pour maîtriser et contrôler. Et là-dessus, vous pouvez pas vous en sortir.
Laurent, vous, on a rapidement mis un mot.
On l'a dit souvent. On m'a dit souvent, t'as un problème avec l'alcool, fais gaffe, machin. Et moi, plus on me disait ça, plus je buvais.
Est-ce que c'est la même chose de dire à quelqu'un, tu as un problème avec l'alcool, que de dire
tu
es alcoolique?
Est-ce qu'il y a pas façon cachée de dire un truc qu'on n'ose pas dire à quelqu'un, quoi. Mais moi, tant que je me suis pas reconnu moi-même alcoolique, en tout cas pour moi, il n'a rien pu se passer, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment que je prenne la mesure de l'état dans lequel j'étais pour me dire, ok, bah maintenant c'est bon, t'es là, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi.
Juste pour dire une chose et pour aider ceux qui se posent la question, qui ont des amis ou des parents qui ils estiment ont un problème d'alcool, le seul truc, envoyez-les en réunion, tout simplement. Une réunion, on y va, on s'assoit, on écoute, on repart. On
n'a pas déjà de pièce d'identité pour faire cette démarche.
Non, pas forcément. On peut venir. Nous avons à nos réunions, on a ce qu'on appelle des réunions ouvertes. Il y a des amis, des gens qui viennent, qui sont ou journalistes ou médecins ou rien du tout.
Sans prendre la parole.
Sans prendre
juste
la
pour
parole.
Assister.
Ils viennent juste assister. On n'est pas du tout obligé de
et
parler.
Et voir s'ils se reconnaissent peut-être dans les témoignages.
Voilà. Il y en a qui viennent en disant j'ai un parent qui est alcoolique, donc je viens prendre des infos. C'est sûrement pour eux, mais nous, on ne demande rien.
Merci Anne, en tout cas, pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage pour l'avenir, beaucoup de courage également aussi à votre ex-mari. Je voudrais qu'on s'arrête et puis on va revenir sur ces parrains, marraines dont je parlais. Et puis, il y a également des traitements qui, au-delà du travail psychologique, peuvent aider les malades. Existe-t-il un médicament miracle? Quel type de médicament pour vous aider? À tout de suite.
Si c'était ça le bonheur.
Si c'était ça le bonheur, sur Europe 1.
On parle de l'alcoolisme aujourd'hui. Comment s'en sortir? Quelle vie après avoir gagné cette bataille? Laurent et Muriel sont avec nous pour nous raconter cette après-maladie, comment reprendre le cours normal de sa vie, surtout avec les tentations régulières. On va y revenir tout à l'heure après 15 heures. Je voudrais qu'on fasse un point sur la médecine dans une minute, mais d'abord un mot sur ce parrain, cette marraine. Est-ce que quand on commence à suivre les réunions d'Alcooliques Anonymes, on est forcément immédiatement pris en charge par un parrain, un aîné qui va vous driver, si vous permettez cette expression?
Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. En fait, il est suggéré. En Alcooliques Anonymes, il y a un truc qui est très chouette, moi, qui m'a bien plu, c'est que tout est suggéré. Rien ne vous est, rien n'est obligatoire. Il n'y a pas d'étapes. Enfin, il y a un programme avec des étapes, mais elles sont pas obligatoires. Vous faites comme vous le voulez. Alors, le principe, on vous suggère de prendre une marraine pour une femme, un parrain pour un homme, pour une raison simple, c'est que c'est pas toujours facile, notamment avec le programme des 12 étapes, de s'y retrouver. Puis au départ, on est très mêlé dans la tête, hein. Quand on a bu pendant 20 ans, 15 ans, on n'est pas très clair quand même. Donc d'avoir quelqu'un près de soi qui vous écoute, qui vous aide à vous retrouver vous-même, à faire la rencontre, aller à la rencontre de vous-même, parce que c'est ça le programme des alcooliques, hein. C'est tout simplement ça, se découvrir soi, se connaître, s'accepter, et puis après faire ce qu'on peut avec nous-mêmes. Et une marraine, pour ça, c'est capital.
Comment vous pourriez décrire cette relation qui vous unit à votre parrain ou marraine?
C'est avant tout une relation de confiance, quoi. C'est-à-dire que moi, la personne que j'ai choisie, c'était quelqu'un...
On se choisit, hein.
Ouais, c'est vous moi qui choisis quelqu'un. D'accord. En fonction de ce qu'il dit en réunion. Donc c'est pour ça qu'il faut faire pas mal de réunions quand même. Et après, il y a une démarche. Après, toujours dans le rétablissement, c'est de faire des efforts pour se rétablir. Donc je suis allé voir une personne en lui disant, bah voilà, est-ce que tu veux être mon parrain? En l'occurrence, il a accepté. Et puis donc voilà, il avait des qualités qui représentaient des choses attrayantes pour moi. Le calme, la tranquillité, la sérénité, des choses qui m'attiraient.
Et alors quoi, vous vous appelez régulièrement pour faire des points ou
après,
que en cas de nécessité?
On peut avoir des rendez-vous fixés, ça dépend, il n'y a rien d'établi, c'est une relation d'homme à homme ou de femme à femme, hein, et il n'y a rien d'établi. C'est-à-dire qu'après on trouve chacun son modus operandi. Donc moi c'est vrai qu'à certaines périodes de ma vie, bah, j'appelle plus souvent en fonction des difficultés que je peux rencontrer, et donc ça dépend vraiment du mode de fonctionnement.
Je voudrais qu'on prenne Eric Ispar, qui est médecin alcoologue à l'hôpital Fernand Vidal. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai posé cette question volontairement un peu provocatrice. Est-ce que le médicament miracle existe pour accompagner ceux qu'il va falloir sevrer?
Je crois que vous avez dit en disant que c'était provocant, que c'était effectivement une non-réponse que j'allais faire sur ce sujet. On peut être aidé bien sûr par des médicaments. Heureusement, on ne fait plus tout à fait comme ça, comme ce qui se passait il y a des dizaines d'années. C'est pour ça qu'il y a une culture du soin actuellement, du traitement, tout à fait, qui est très très évolué par rapport à l'empreinte inquiétante qu'il pouvait y avoir sur des internements, sur des cures de dégoût, des choses épouvantables. Donc je veux dire qu'actuellement, les équipes d'alcoolologie ont un soin assez large, dont quelques médicaments peuvent aider, bien entendu. Il n'est pas question de se faire mal quand on est dans un moment de sevrage, mais c'est surtout médico-psychosocial, et bien entendu, il y a tout un accompagnement hors médicaments qui est absolument indispensable, indépendamment aussi des mouvements d'entraide que vous venez tout à fait de rappeler de façon très forte avec vos témoins.
Et on va continuer à le faire jusqu'à 15h30. Quel type de médicaments donne-t-on aujourd'hui aux malades pour les soutenir, pour les épauler?
Je crois qu'il y a surtout de médicaments qui aident le sevrage, parce qu'il faut savoir et dire quand même dans votre émission que l'alcoolodépendance peut être extrêmement grave, à la fois dans ses risques de sevrage, de manque. Il y a des personnes qui ont des tremblements le matin, ça c'est bien connu, ça peut aller jusqu'à des convulsions. Donc il est évident qu'il faut aider avec des médicaments qui vont empêcher ce type de difficultés. Les personnes ne sont pas malades dépendantes physiquement d'alcool. Il y a des personnes qui vous diront « je n'ai pas du tout de manque physique, mais quand je commence, je n'y arrive pas à m'arrêter ». Alors c'est sûr que tout ça doit être pris en compte sur la question de l'histoire psychique, de l'angoisse et autres, mais aussi d'aider. Alors il y a des médicaments d'aide au maintien, qui sont des adjuvants qui permettent effectivement peut-être d'aider. Il y a aussi un accompagnement qui fait que certains patients auront besoin peut-être d'être aidés sur un état dépressif, sur un état anxio-dépressif majeur pendant quelques mois. C'est tout un travail d'accompagnement.
Est-ce qu'on traite de la même manière l'addiction à l'alcool à 25 ans qu'à 50 ans?
Je crois que vous avez raison. Actuellement, on voit un espace transgénérationnel qui est tout à fait, moi qui fais depuis 25 ans d'alcoologie, il y a actuellement des patients qui sont autour de 25 ans qu'on ne voyait pas. L'idée pour eux d'un arrêt complet de l'alcool est complètement difficile, peut-être à intégrer, peut-être que c'est pas du tout, ils sont peut-être dans la dimension de la prise de risque. Donc il y a quelque chose à accompagner. C'est sûr qu'on voit plutôt des défonces, des prises de risques, des comorbidités qui vont se faire autour de la sexualité, des fracas, quels qu'ils soient, vous le savez, au niveau du routier ou autre. Donc ceux qui ont 50 ans, c'est que déjà ils ont vécu de bonnes années, en tous les cas avec l'alcoolisation. Et puis actuellement, on voit une troisième génération qui sont des seniors, qui sont en date de 60 ans, et qui eux aussi posent d'autres problèmes. Alors actuellement, à l'hôpital, on voit trois générations.
Alors il y a Claire qui nous envoie, Pauline qui nous envoie un message, et donc je rentrerai pas dans le détail de son message parce qu'elle dit des choses assez intimes. Ceci étant dit, elle m'interpelle sur le fait qu'elle a 28 ans et qu'elle se sent alcoolique depuis ses 20 ans, et qu'elle estime qu'on ne parle pas assez des jeunes et notamment des jeunes filles alcooliques. Est-ce que vous avez de plus en plus de personnes, de jeunes femmes qui se présentent à votre service ou en tout cas qui sont conduites à votre service? De cet âge-là,
Il faut dire à cette jeune femme que, bien sûr, on voit des jeunes filles qui sont tout à fait insérées dans les milieux, des fois relativement avec des hautes études, et un parcours qui a priori aurait pu être sans espace de difficulté. Il faut surtout qu'elle n'ait pas honte, qu'elle n'ait pas d'inquiétude à venir frapper aux portes des consultations. Je pense que les collègues des alcooliques anonymes que vous avez avec vous disent qu'ils ont aussi des jeunes femmes qui arrivent comme ça. Moi, j'ai énormément de personnes qui, par le biais d'Internet, finissent par venir aux consultations. Il faut surtout qu'elles viennent le plus tôt possible. Alors, vous savez que maintenant, on parle d'addictologie. Il y a aussi des conduites hautes, des conduites d'anorexie boulimie, des injecteurs, des gens qui ont pris de l'alcool en relais, le crack, la cocaïne, le tabac, bien sûr, le cannabis et autres. Donc, évidemment, dans toutes ces phrases un peu compliquées, l'alcool est souvent celui qui reste en tête de proue. Plus vite ces personnes viennent consulter, elles seront bien accueillies, plus vite elles pourront entamer un soin.
Merci beaucoup docteur Eric Ispard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin alcoologue à l'hôpital Fernand Vidal. On va écouter les informations, vous avez des informations à donner pour les proches justement qui auraient besoin d'être aidés, vous Muriel et Laurent, et puis comment vivre avec cette tentation au quotidien. On va y revenir avec vous, mais d'abord c'est les infos Julien.
Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard.
Merci d'être avec nous dans « Et si c'était ça le bonheur » pour une émission tournée vers l'avenir aujourd'hui, puisqu'on parle de ceux qui se sont sortis de l'alcoolisme. Dans un instant, nous parlerons de cette menace, entre autres permanente, qui pèse sur les épaules de ceux qui se sentent peut-être encore fragiles. Je voudrais vous lire le témoignage très positif de Sophie qui nous dit « J'ai envie de vous envoyer un message d'espoir. Oui, on peut se sortir de l'alcoolisme et vivre normalement. Bien entendu, il faut être prêt à ne plus jamais toucher à une goutte d'alcool. La vie est belle sans alcool. Elle est loin d'être triste sans alcool. Je vous embrasse, Sophie. Merci pour votre témoignage. Juste avant de se retrouver, je voudrais qu'on passe comme tous les jours à 15h04, presque exactement, à la recette du bonheur. Aujourd'hui, c'est Roland Giraud qui a répondu à nos questions. Écoutez.
Europe 1. Et si c'était ça le bonheur? La recette du bonheur.
La recette du bonheur, c'est de ne pas trop penser à soi-même et de penser un peu plus aux autres ou à l'autre. Parce que le fait de dire à quelqu'un « bonjour, comment allez-vous ?», ça le met de bonne humeur, et donc il va être plus agréable avec moi, et c'est interactif, si vous voulez. Voilà. Donc la recette du bonheur, c'est de ne pas trop penser à soi, sinon on n'a que la recette de la dépression nerveuse, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Un film culte, Moi j'aime beaucoup, évidemment, le Couffin, que tout le monde a vu, mais parce que je trouve que c'est un film réussi et une jolie histoire, et que c'est la première fois qu'on faisait un film généraliste, comme le faisait Chaplin, c'est-à-dire sur un grand thème. Là, c'était la paternité.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Voilà, c'est un film généreux et émouvant. C'est un film que j'ai fait, mais dans les autres films, il y en a beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y en a tellement que j'aime que c'est difficile de trouver un comme ça. Si, Marianne de ma jeunesse. Parce que c'était Marianne de ma jeunesse, un film de Julien Duvivier, qui raconte une histoire d'amour dans une colonie entre un jeune homme et une jeune fille qui est très, très réservée. Et c'est un film magnifique de Julien Duvivier, qui date de 54. et que j'ai vu 15 fois à l'époque et que je revois encore à la télévision, j'ai même le DVD à la maison, qui est un film d'une poésie, d'un romantisme extraordinaire pour un adolescent. Celle que j'aime le plus, c'est la première dont je me souviens dans ma vie, c'est une chanson des Compagnons de la Chanson qui s'appelait Les Trois Cloches, qu'ils ont chanté avec Edith Piaf au début de leur carrière parce qu'elle les a aidés.
Une cloche sonne fonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico.
C'est une très belle chanson qui est pour moi une chanson magnifique parce qu'elle raconte la naissance, le mariage et la mort. C'est une vie. Et voilà, Les Trois Cloches, c'est la chanson qui me touche le plus au niveau des souvenirs et au niveau de la qualité du texte et de la musique.
Et si c'était ça le bonheur?
Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1.
Merci beaucoup Roland Giraud qui sera sur la scène du Palais Royal dans la pièce intitulée Le Technicien jusqu'au 30 avril prochain. Merci beaucoup. Muriel et Laurent sont toujours avec nous pour nous parler de cette vie après l'alcoolisme. Vous vouliez nous donner, pour les proches qui nous appellent, ils sont très nombreux à vouloir se manifester, peut-être un conseil d'un mouvement vers lequel ils pourraient se tourner s'ils ont besoin d'aide, puisqu'il y a également beaucoup de mouvements qui accompagnent l'entourage des personnes malades. C'est un mouvement qui s'appelle Al-Anon, Laurent.
Oui, c'est un mouvement qui s'appelle Al-Anon. C'est sur le même principe que les Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire que c'est le même programme qui est utilisé, mais qui concerne surtout les proches, les enfants d'adultes alcooliques, les proches, les familles, ou pour les conjoints, conjointes, qui sont confrontés aussi par ce mal, l'alcoolisme.
Je voudrais qu'on prenne Fabienne, qui est en ligne avec nous. Bonjour Fabienne. Allô, Fabienne? Est-ce que Fabienne est là? Bon, alors en attendant Fabienne, on va prendre Ludovic. Alors, Fabienne est là. Fabienne, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, Fabienne. Merci de nous appeler. Vous êtes alcoolique, abstinente vous-même?
Oui. Depuis plus d'un an, 1 an et 4 mois exactement.
Oui.
Moi, ce que je voulais dire, c'est déjà s'avouer qu'on est malade et non dire qu'on a un problème avec l'alcool.
Oui, parce que depuis tout à l'heure, on entend beaucoup cette expression plus que la maladie. Hein.
Accepter qu'on est malade alcoolique, c'est déjà un grand pas vers le chemin. Et on ne choisit pas d'être alcoolique. En fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Je l'ai pris comme un médicament, l'alcool.
Vous étiez quelqu'un de très mal dans votre peau, c'était ça, 20 ans?
Oui, j'étais mal dans ma peau et j'avais pas de personne autour de moi pour, vers lesquelles m'orienter. Depuis que j'ai arrêté, il suffit. Je voulais dire une chose aussi qui est importante. Contrairement à d'autres maladies, on a le pouvoir d'enlever le produit. Et donc, si on enlève ce produit, on est guéri.
Oui, c'est-à-dire que vous aviez fait le choix du jour au lendemain, vous, de retirer toutes les bouteilles ou l'alcool qui pouvait traîner chez vous. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Fabienne.
Exactement, on retire le produit. Le produit, il est partout. Seulement, il faut savoir maintenant, moi, ce que je mesure, ce sont les conséquences. Et les conséquences, j'étais dans un état dépressif. Avec l'alcool, c'est une spirale infernale. L'alcool entraîne la dépression. Et depuis, ça va beaucoup mieux.
Merci Fabienne pour votre témoignage. Je voudrais qu'on avance et qu'on continue à prendre d'autres témoins. Vous Laurent, après la rupture avec votre famille, comment vous avez repris contact avec eux lorsque vous avez senti que vous étiez abstinent durablement?
Non, moi j'ai juste repris contact en leur disant que j'étais dans une démarche de soins, que j'avais pris la mesure un petit peu de mon état, et donc après rapidement on a repris contact, et ils m'ont encouragé à continuer les réunions. Après moi j'ai fait un sevrage dans un hôpital pour me sevrer physiquement du produit, et j'ai reçu du soutien immédiatement de leur part, et ils m'encouragent toujours aujourd'hui, et ça se passe vraiment super super bien.
Vous Muriel, votre seul mari était au courant de votre maladie, votre entourage n'avait pas réalisé que vous aviez un tel problème?
Non, l'entourage, à part mon mari, donc qui vivait avec moi effectivement au quotidien, donc lui il avait bien vu, il a tout essayé d'ailleurs pour m'aider à m'arrêter. À part ça, le reste de l'entourage était plutôt, bon, oui, vous voyez bien que de temps en temps je buvais trop. Mais ils n'avaient pas envie d'en savoir davantage.
C'est-à-dire que vous, ils avaient fait le choix de fermer les yeux?
Voilà, tout à fait. Ah, oui, oui, c'était vraiment. Et quand après, je suis revenue en disant, ben, je ne bois plus, ou quand on a refait des dîners avec des copains ou de la famille.
C'est vous qui avez dû leur dire.
C'est moi qui ai dû leur dire. Et eux minimisaient en disant, oh, bon, non, t'étais pas franchement si alcoolique que ça. Comme s'il y avait un degré, enfin, bon,
alors, c'est quoi? C'est un instinct protecteur? C'est pour, c'est pourquoi, justement, ils n'osent pas mettre des mots ou ils continuent de minimiser
parce,
des années plus
tard? Parce que c'est une maladie qu'on connaît pas. Parce que je pense, hein, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété après. Je pense qu'ils étaient très mal à l'aise vis-à-vis de moi parce que qu'est-ce qu'on peut dire à un alcoolique? Qu'est-ce qu'on peut dire d'une personne, à une femme qui boit? Comment aider une femme qui boit? Personne ne sait. Parce que je crois qu'il n'y a que quelqu'un qui a bu qui peut aider quelqu'un qui boit, tout simplement. Donc les autres qui ne sont pas... Imaginez-vous, Faustine, vous avez quelqu'un face de vous qui boit et vous avez envie d'aider, vous allez faire comment? Vous ne savez pas. On ne sait pas comment prendre les choses. Donc bien souvent, on préfère pas les regarder.
Il n'y a pas d'embryon de réponse que vous pourriez nous apporter aujourd'hui? Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, je réalise qu'il a un problème d'alcool. En effet, quoi faire? Il y a tout à l'heure une auditrice qui nous disait, est-ce qu'il faut le secouer? Est-ce qu'il faut se montrer méchant, gentil, plein d'empathie? Quoi faire?
Alors tout ça, ça sert à... honnêtement, ça ne sert à rien. Vous entendriez mon mari, vous dira qu'il a tout essayé avec moi, l'amour, la violence, enfin tout y est passé. Et finalement, c'est les alcooliques anonymes qui m'ont sauvée. Mais enfin, qui m'ont aidé à me sauver, parce que c'est moi qui me suis sauvée toute seule. Mais comment faire? Bah, tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que souvent on me pose la question. Donnez une brochure à un si vous en avez, ou donnez le numéro de téléphone, ou dites à la personne, écoute, va sur internet, trouve une réunion alcoolique anonyme, pointe-toi et regarde. Si tu ne l'es pas, tu ne ressentiras rien, il ne se passera rien, ça ne fera pas de mal.
Ouvrir la porte, que ça ne soit pas forcément ça, mais en tout cas, c'est intéressant, ne serait-ce qu'intellectuellement, vas-y.
Voilà.
Je pense qu'il faut s'adresser à des spécialistes. Quand j'ai un problème de chaussures, je vais chez le cordonnier, et puis quand j'ai un problème d'alcool, bah, je vais voir le corps médical et je me dirige aussi vers des mouvements d'anciens buveurs qui sont spécialistes quand même. C'est entre guillemets, ils sont là pour ça.
Comment on fait au quotidien après, quand on a eu un problème avec l'alcool? Aujourd'hui, première question, alors pour le coup très basique, si vous rebuviez une goutte d'alcool, un verre d'alcool, est-ce que immédiatement ça vous replongeriez?
C'est sûr. Alors pour certains d'entre nous, ça prendra peut-être un peu de temps. La rechute ne sera pas tout de suite, d'accord? On me dit, ah, un verre d'alcool, ça va. Et puis peut-être que ce sera que 6 mois après que la vraie rechute sera là.
Vous-même, vous êtes retrouvé un jour avec un whisky, boisson gazeuse marron dans votre bouche. Hein.
Ah oui, et puis je l'ai craché. Tout de suite. Hein. J'étais pourtant à une soirée, il y avait plein de monde, mais non, j'ai craché immédiatement. Mais pour moi, l'alcool égale l'enfer. Hein. Je veux plus de cet enfer-là. Donc je ferai tout pour que l'alcool ne rentre plus en contact avec moi. Tout. Je ne veux plus de ça.
Ce qui fait que, par exemple, si je suis invitée chez vous, les gens qui sont invités chez vous, ils apportent des fleurs. Ils font attention à ce genre de choses.
Alors, ils font attention si, par exemple, certaines amies, vous connaissez le truc, oh, bah, j'amène le dessert. Bon, bah voilà, elles feront attention à ce qu'il n'y ait pas l'alcool dans le dessert. D'accord.
Même dans la nourriture. Hein.
Sauf la nourriture qui est cuite, où l'alcool s'évapore. J'en fais moi-même, d'ailleurs, avec du vin.
D'accord.
Donc, et autrement, non, tout le reste. Moi, j'adore qu'on amène du champagne à la maison.
D'accord.
J'adore ça. Pourquoi? Parce que je sais que mes amis aiment ça. Parce que ça a un côté très festif. Moi, j'ai toujours une ou deux bouteilles de champagne dans le frigo. Et j'aime offrir du champagne. Et j'aime bien qu'on en amène. Comme ça, c'est plus simple.
22 ans après, on a toujours, quand on ouvre le frigo, un petit regard, quelque chose qui fait... Non, ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Et 3 ans et demi après, Laurent?
Pareil, pour moi, c'est pas du tout problématique. Les premiers temps, la première année, j'ai dû mettre en place justement des stratégies de vigilance qu'on m'a appris aux alcooliques anonymes, qu'on m'a appris en cure. Et puis maintenant, je me sens plus du tout...
Vos parents, par exemple, quand vous allez déjeuner chez vos parents ou dîner chez vos parents?
Il y a du champagne, il y a de l'alcool. Moi, j'ai mon pulco, j'ai mes trucs à moi. Et puis voilà, et ça passe très bien. Je bois l'apéro avec eux, mais moi, je bois pas d'alcool. Quoi. C'est tout. C'est rentré dans un espèce de truc hyper accepté. Et puis c'est comme ça, et ça se passe très bien.
Je pense aux sollicitations quotidiennes, notamment professionnelles. Il y a toujours un pot pour fêter le départ d'un collègue à la retraite ou l'arrivée de quelqu'un, d'un nouveau patron. En effet, dans ces moments-là, on arrive à expliquer, à justifier quand quelqu'un vous sert un petit verre en disant tu vas bien boire un petit coup avec moi, on arrive à expliquer, qu'est-ce qu'on dit? On assume, on dit non?
Moi c'est marrant parce que maintenant avec le temps, je n'ai plus besoin de me justifier. Au début, j'étais dans un truc où je justifiais, je disais ah non, etc. Et maintenant je dis non, je bois pas d'alcool, je vais prendre un coca.
Mais parce qu'ils le savent?
Pas forcément, il y a des gens qui le savent, d'autres pas, et puis j'ai pas forcément envie de m'étendre sur la question, et je suis à l'aise avec ça.
Ça dépend vraiment du temps d'abstinence, effectivement, qu'on a, mais moi, par exemple, tiens, je me souviens d'une fois, au tout début où j'ai arrêté de boire, 3-4 jours après, ou peut-être 3 semaines, peu importe, mais très rapidement, je me suis retrouvée dans une soirée professionnelle qui était alcoolisée, où il y avait du whisky, ça puait franchement le whisky. Et là, j'avais rencontré Alcoolique Anonyme, et j'ai eu le réflexe de ce que me demandait Alcoolique Anonyme de faire, c'est-à-dire téléphoner. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le premier numéro que j'avais d'une personne que je ne connais pas, hein, du tout. Et je lui ai dit, je suis pas bien parce que je suis dans un endroit où tout le monde boit, il va falloir que je prenne un verre. Et elle m'a dit, non, tu prends pas un verre, tu prends ton sac et tu te tires. Et j'ai dit, mais je peux pas partir comme ça, d'une soirée professionnelle, sans dire au revoir, ils vont tous se demander pourquoi. C'est ta peau que tu veux sauver, tu prends ton sac, tu te tires. Elle a été tellement catégorique que j'ai... Et quand elle m'a dit, c'est ta peau que tu veux sauver, voilà,
ça a eu un écho chez vous. Il y a Mimi qui nous dit 27 ans, alcoolique et malheureuse. Je lutte chaque soir en rentrant du travail et je craque régulièrement tous les deux ou trois soirs. Je m'en veux, mais ça me prend dans le ventre. Merci pour votre émission. Dire à Mimi, en effet, tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire aller dans une réunion, ne serait-ce que pour voir, ne serait-ce que pour observer, ne serait-ce que pour sentir si ça fait écho en elle à cette jeune femme de 27 ans.
Oui, enfin, c'est surtout moi, en fait, il a fallu que j'accepte que j'ai besoin d'aide, en fait. C'est-à-dire que tout seul, je ne peux pas y arriver, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'aide des autres.
On va s'arrêter une petite minute et on se retrouve avec vous, Muriel et Laurent, sur Europe 1. Et puis, on aura également le livre du jour. C'est notre chronique du mardi. Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Europe 1, et si c'était ça le bonheur?
Le livre du jour.
Le livre du jour. Donc, avant de retrouver Muriel et Laurent, il nous est présenté par Linda Cassou qui est en ligne avec nous. Bonjour Linda.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes libraire à la librairie Antipode à Enghien-les-Bains. Quand on vous a parlé de notre sujet, vous avez donc réfléchi à un livre et c'est celui-là qui s'est imposé. Ça s'appelle L'oiseau canadèche. C'est bien ça?
C'est exactement ça. L'oiseau canadèche, son auteur Jim Dodge aux éditions Cambourakis.
Alors, pourquoi il vous a touché, ce livre?
Alors, ce livre m'a énormément touchée. C'est un tout petit livre, en fait, hein, à la fois par son format, par son épaisseur, mais c'est une sorte de fable. On fait la connaissance du personnage principal, qui est un enfant qui démarre mal dans la vie, puisque son père est mort avant sa naissance. Et le jour de ses 3 ans, en fait, sa mère va mourir, elle aussi, accidentellement. Les services sociaux vont donc se poser la question, que faire de ce petit toutou, et vont décider finalement de le confier, après beaucoup d'hésitation, à son grand-père, Pépé Jack. Beaucoup d'hésitation, pourquoi? Parce que cet homme d'abord a 80 ans, donc déjà un peu âgé. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément construit sa vie, qui a été, qui n'a pas fait grand-chose en fait, qui est totalement asocial, qui n'a jamais vraiment beaucoup travaillé, n'a jamais payé ses impôts. Enfin, il n'est pas vraiment bien inséré dans la société. Et puis, il a aussi un petit problème avec l'alcool. Il a un jour croisé la route d'un vieil Indien qui lui a donné, au moment de mourir, la recette d'un alcool qu'il fabriquait lui-même. Et Pépé Jack, depuis, fabrique lui-même un alcool qui titre 97 degrés, donc à peu près imbuvable, et qui, pense-t-il, va le rendre immortel. Alors, il est donc complètement dépendant, il n'a pas le profil type pour s'occuper d'un enfant en bas âge. Or, très bizarrement, la rencontre avec ce petit-fils, et c'est là où, en fait, le problème d'alcool devient vraiment... un des sujets principaux du livre. En fait, Pépé Jack, il aurait continué à picoler comme ça, il serait passé complètement à côté de sa vie. Parce qu'en fait, cette rencontre avec ce petit-fils improbable qu'il n'aurait sans doute jamais connu sans cette succession d'accidents va redonner un sens à sa vie. Et on va assister donc à la rencontre de ces deux êtres qui vont se construire l'un à travers l'autre. Et puis, il y a un troisième personnage qui est aussi très important, qui est l'oiseau canadèche qui donne le nom au livre. Parce que autant grand-père Jack, lui, est complètement à côté, il a jamais supporté les contraintes, etc., autant Titou, en grandissant, la grande histoire de sa vie, ce seront les clôtures. Il ne rêve que de tout clôturer. Et un jour où il a creusé un trou pour enfoncer un pieu afin de faire une clôture, il va découvrir un oiseau, un caneton, qui va s'avérer, en fait, en grandissant, être une canne au caractère bien trempé, qui deviendra obèse. Et donc, on va suivre ces trois personnages qui vont vivre ensemble et se construire ensemble.
Et ce petit garçon qui va donc aider son grand-père à se sortir de cette spirale de l'alcool pour faire le lien avec notre sujet.
Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. L'alcool sera encore présent, mais vraiment complètement en retrait. Donc l'alcool, en fait, aurait vraiment mais gâché complètement la vie de Pépé Jack, qui était un être asocial, qui n'avait, en fait, ça l'avait coupé de la société. Il n'avait plus d'amis, il n'avait pas de travail, il n'avait rien. En fait, sa vie était vraiment déserte. Et grâce à l'arrivée de ce gamin, il va maîtriser les choses et découvrir la grande aventure, en fait, de la vie. Comme quoi, à 80 ans, il n'y a pas de fatalité.
Ça s'appelle donc l'oiseau canadèche, pardon, je vous interromps Linda, mais qui ça revient avec également beaucoup de tendresse, à étudier avec beaucoup de tendresse les relations grand-père-enfant.
Humour également.
Avec beaucoup d'humour également. Merci beaucoup Linda. Donc ça s'appelle l'oiseau canadèche aux éditions Cambourakis. Je rappelle qu'on peut vous retrouver physiquement à la librairie Antipode à Enghien-les-Bains. Merci,
merci
beaucoup Linda. Muriel et Laurent, avant de prendre Kevin en ligne, une question. Est-ce que quand on a un passé d'alcoolique, est-ce qu'on développe un sixième sens? C'est-à-dire que quand on va dans une soirée ou dans une réunion mondaine, tout de suite on va reconnaître celui qui a un rapport malsain avec l'alcool et on va avoir cette envie altruiste de lui venir en aide.
Je dirais le sixième sens. Oui, c'est vrai que moi, ça m'est souvent arrivé de me dire, tiens, celui-là, il doit avoir un problème d'alcool, ou parce qu'on voit bien la relation qu'il a avec. Mais en tous les cas, je m'interdis bien de d'y aller, et je m'interdis bien de lui dire, dis donc, t'aurais pas un problème, tu as besoin d'un coup de main, etc.
Pour quelle raison?
Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne peut marcher que le jour où vous êtes vous-même conscient que vous êtes alcoolique. Donc, la personne qui tend pas la main, vous savez, aider l'autre, c'est pas aller chercher la main qu'il a gardée dans sa poche. Il faut qu'attendre qu'il sorte la main de la poche, qu'il l'attende, et là, tu peux la prendre, tu peux l'aider. Sinon, avant, ça marche pas, quoi.
Laurent ?
Oui, je suis un peu du même avis. Moi, déjà, je m'en sors moi, et puis après, je pense que c'est une démarche personnelle d'avoir envie de s'en sortir. Si j'ai arrêté de boire, je l'ai fait pour moi, avant tout, pas pour les autres.
Il y a Bruno qui nous écrit « Je suis un ancien alcoolique, ancien légionnaire. Un jour, j'ai réagi en me disant que j'avais peur que mes enfants me voient complètement bourré. Ça m'a fait tellement peur que je me suis dit j'arrête. C'était il y a 7 ans. Depuis, je ne touche plus une goutte d'alcool. » On va prendre Kevin qui est en ligne avec nous. Bonjour Kevin.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup. C'est votre père qui est alcoolique lui-même, Kevin ?
C'est ça, exactement, oui.
Vous lui en avez beaucoup voulu ?
Énormément, en fait, parce qu'il est tombé dans l'alcoolisme assez... quand j'avais 10-11 ans, à peu près. Ça s'est vraiment accentué par la suite. Et sur l'âge de 16 ans, en fait, ma mère a décidé de partir, de déménager, parce qu'elle n'en pouvait plus, tout simplement. Donc, du coup, j'ai dû gérer non seulement mon père, qui était alcoolique fini, dans le sens où il ne pouvait plus se laver, il ne pouvait plus manger, plus ménage, rien. Et également m'occuper de ma mère, qui elle était très malheureuse parce qu'elle est encore amoureuse de mon père. Donc il a fallu gérer tout ça. Donc ça, je lui en ai beaucoup voulu pour tout ça. Ensuite, il est parti à La Réunion, vivre dans sa famille, parce qu'ils ont voulu, parce qu'il y a la famille aussi qui s'en est chargée également, qui m'envoyait tout le temps des nouvelles, qui m'appelait régulièrement, etc. À 16 ans, c'est pas très facile de gérer ce genre de choses, surtout quand on a les cours à côté. Et ensuite, il est parti vivre là-bas. J'y suis retourné deux fois, une fois avec mon frère, où ça s'est bien passé, mais... il est retombé dans l'alcool après. Et la deuxième fois, je lui ai dit, papa, c'est la dernière fois que je reviens. Si je t'entends encore une fois au téléphone sous, je ne reviendrai plus. Et c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai été soigné. Je veux dire, j'ai consulté un psychologue, justement, pour travailler là-dessus, pour me déconstruire par rapport à ce que j'ai vécu avec mon père, et pour reconstruire autre chose. Et surtout aussi pour pouvoir lui pardonner, pour pouvoir avancer aussi autrement, quoi.
C'est nécessaire pour vous cette histoire de pardon, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller à sa rencontre pour lui dire je veux aller de l'avant et je veux qu'on se pardonne mutuellement.
J'en ai réellement besoin. C'est limite vital pour moi pour avancer aujourd'hui. Je pense que ce sera pas un point final dans mon évolution à l'heure actuelle parce qu'il y a encore plein d'autres choses autour, mais c'est un point très important dans ma vie. Qui m'a desservi pendant longtemps, mais qu'aujourd'hui, je me suis fait une raison. Mon père est alcoolique. Tantôt ça va moins bien, etc. Ça fait 8 ans que je ne l'ai pas vu aujourd'hui, donc je me dis, il est temps de faire la part des choses et d'évoluer, de grandir, et surtout que mon père, je ne sais pas combien de temps encore je vais l'avoir, surtout avec son problème d'alcoolisme.
Donc, il y est toujours aujourd'hui ?
Il est toujours, oui. Il est toujours. Ça va et ça vient, en fait. Là, la famille s'occupe très bien de lui. Il a retrouvé un emploi, il travaille avec son frère. Donc ça se passe vraiment très très bien.
Kevin, est-ce que Laurent et Muriel, est-ce qu'il y a vous avez demandé pardon, vous, aux gens qui vous avez accompagné, est-ce qu'il y a cette nécessité de se demander pardon ?
On sourit là tous les deux, on se regarde et on sourit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça fait partie d'ailleurs du programme des Alcooliques Anonymes. Il y a une partie de notre programme où on demande, on fait ce qu'on appelle amende honorable auprès de des personnes qu'on a lésées. Alors, ceci dit, c'est vrai que quand on commence à arrêter de boire, enfin quand on arrête de boire, on voit tous les dégâts qu'on a fait quand même. Là, on est obligé d'ouvrir les yeux en grand et c'est là où ça fait mal d'ailleurs. Et c'est pour ça que les premiers temps sont difficiles. La première chose qu'on a envie de faire, c'est de réparer tout de suite. Parce qu'on est des gens sympas, nous, on est plutôt gentils. Et on a envie d'aller demander pardon. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire trop vite. Voilà, trop vite. Il faut savoir attendre un peu avant de le faire.
On va être obligé de s'arrêter là, Laurent. Alors, je suis désolée. Je voudrais embrasser très fort Kevin et lui souhaiter tout le meilleur du monde pour lui ainsi que son papa. Et en tout cas, que cette rencontre comble vos besoins, Kevin. Merci beaucoup, Laurent et Muriel, merci de nous avoir accompagnés. Oui. Merci de votre clarté, de votre générosité. Et puis, nous, on va se retrouver demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur Europe1.fr. Nous retrouver également sur la page Facebook. Merci à Guillaume Vasseau, Nicolas Baudin, Lionel Texera et Mariette Naïs Sénin qui mettent comme tous les jours à préparer cette émission. Demain, c'est mercredi, donc on parlera des enfants et on parlera de la tétine. Aldo Naouri sera avec nous pour nous dire à partir de quel âge il faut absolument jeter la tétine de nos enfants. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À demain, Julia.
À demain, Faustine.
Et bon après-midi sur Europe 1.
Restez avec nous. Dans un instant, c'est Laurent Ruquier avec On va gêner.